Olivier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
En préambule et avant toute chose, je voulais vous dire que mon invité et moi-même avons décidé de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui était... Il nous aimait bien, je crois, j'allais dire notre ami. Oui, peut-être pas, mais il nous aimait bien. Nous, on l'adorait, on l'aimait beaucoup. Mon invité et moi-même, donc, je disais, allons dédier cette émission à notre ami Jean-Paul. Mon invité, regardez, j'en bafouillerai presque... Ah, qui c'est mon invité? Le public qui va au cinéma aime certains acteurs parce qu'ils ont une gueule, comme on dit. D'autres parce qu'ils ont une voix. Cet après-midi, bingo, celui qui est à mes côtés possède les deux. Et tant d'autres choses encore que vous allez découvrir. C'est avec une joie non dissimulée que j'accueille en votre nom sur l'antenne d'Europe 1, Monsieur Gérard Darmon. Bonjour mon prince.
Bonjour monseigneur.
C'est vrai qu'on a envie, on pourrait passer toute une émission à parler de Jean-Paul, toi et moi.
Ah oui, monsieur.
Mais on va pas la faire tristose, parce qu'il nous a trop donné de plaisir, on a trop rigolé avec lui. Écoute, ton premier choix, ça lui aurait beaucoup plu, je le sais, et je sais pourquoi. Parce que t'as choisi en première chanson de ta vie, enfin qui te touche, une chanson qui me bouleverse aussi, mais moi je te dirai pourquoi. Mademoiselle Edith Piaf,
c'est
l'hymne à l'amour.
C'est incontournable pour moi ça. C'est incontournable, cette femme qui n'a jamais écrit une chanson dans sa vie, en écrit une, totalement prémonitoire, totalement destinée, totalement... guidé par le ciel, par les forces de l'esprit, je ne sais quoi.
C'est ça qui me fait peur, moi.
Oui, moi ça.
Enfin, dans cette chanson.
Ben oui.
Parce que les circonstances dans lesquelles elle l'écrit et l'histoire qui va suivre, c'est-à-dire c'est dingo.
Quoi. Oui, c'est dingo. Mais il y a des choses comme ça qui se répètent. Tu vois, Claude Lelouch que l'on connaît bien fait jouer Bernard Tapie et à un moment donné, Arditi dans le film lui dit vous avez un cancer de l'estomac et tu vois et 10 ans après, 15 ans après il. Donc bon, on démarre par une comédie cette émission, c'est bien. Pour moi, c'est un incontournable. Quand tu me demandes quelles sont les 5 chansons comme ça, c'est très difficile de cet exercice.
Très difficile.
J'ai éliminé. Beaucoup de gens. Enfin, j'aurai l'occasion peut-être de parler de ceux que j'ai éliminés, mais c'est terrible. Bon, donc c'est douloureux. L'hymne à l'amour parce que Piaf, son histoire d'amour, Cerdan, la tragédie, et puis cette voix qui est proche des anges. Enfin, pour moi, je ne pouvais pas ne pas mettre l'hymne à l'amour.
Est-ce que tu as le souvenir de la première fois où tu l'as entendu, ou pas, peut-être pas la première fois, mais les premières fois et l'âge que tu avais?
Écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été beaucoup plus formé par le music-hall que par le théâtre et le cinéma. Car ma maman, ma mère, travaillait rue de la Gaîté en face de Bobino. Et pour ne pas que je sois dans ses jupes toujours quand je l'attendais, elle l'empêchait de travailler, elle me confiait à sa copine Suzanne, qui était ouvreuse à Bobino, et elle me disait, viens là toi, allez viens, tiens, assieds-toi là. Et elle me donnait un strapontin ou un truc dans la salle de Bobino, le vrai Bobino,
celui de Félix Vitry.
Exactement, Félix Vitry. Et donc je les ai tous vus défiler, c'est pour ça que je te parle de cette formation, tous.
Moi, je me marre parce que ça me revient. Pourquoi je sais que c'est Félix Vitry? Parce que j'ai passé ma première audition, c'était à Bobino, mais je t'ai coupé la parole.
Je t'en prie, Je t'en prie, au contraire, je ne me souvenais plus, moi, que c'était fait Vitry. Et pourtant, je l'ai vu ce nom des dizaines de fois. Donc, j'étais tout mouflé, j'avais 10-12 ans, tu vois. J'ai découvert Brassens là-bas. Pourquoi Brassens m'a parlé, m'a ému à 12 ans? À savoir, je ne sais pas, une présence, un œil, un truc, c'est avec Nicolas derrière, Pierre-Nicolas, bon.
Ouais.
Quand je les ai tous vus, tu vois, c'est les compagnons de la chanson, c'est Marcel Hamon, c'est Dario Moreno, c'est Philippe Clay,
C'est des noms merveilleux, c'était des gens qui savaient faire du musical comme
bien
personne.
Sûr. Jean Constantin, tu te souviens?
Jean Constantin.
Mais oui, j'ai une petite, je connais son fils maintenant qui est un très,
Olivier.
très bon musicien, François.
Mais Olivier aussi.
Olivier, ouais. Très, très, très bon musicien. Et Jean Constantin, dans son, à part ce qu'il chantait, genre mes pantoufles et tout ça, bon, les gens aimaient bien ça. Enfin, il a quand même fait mon manège à moi.
Ah, un gros tube.
Gros tube, il a fait la musique de Truffaut pour les 400 coups.
Mmh,
il a
fait des
belles choses comme ça. Et puis un jour, dans son récital, en tout cas j'y étais, il s'est arrêté en plein milieu et il a dit « Maintenant, je vais vous présenter un jeune homme. Il a 17-18 ans, il est un peu nerveux, vous allez voir quand il chante, parfois. Bon, n'ayez pas peur, restez bien en place. Il chante des chansons un peu bizarres. Mesdames et messieurs, Johnny Hallyday. Et j'ai vu arriver un jeune homme de 17-18 ans avec cette chemise en crêpe de comme ça noire, avec ses petits liserés dorés, une guitare claire. Il a chanté deux chansons, je m'en souviens. Souvenir,
ouais,
et Kellywedge.
Et Kellywedge.
Voilà. Et il est ressorti. Il s'est traîné par terre. J'avais presque, comment te dire, j'étais ému et j'avais presque honte parce que je me disais... Qu'est-ce qu'il ose faire?
On avait peur pour lui.
Oui, du haut de mes 12 ans.
Mais c'est vrai ce que
je
tu
disais,
dis.
Comment cette vague de cheveux bleus, violets, c'est quand même c'était des matinées, des vieillards
et tout ça,
à l'époque. Et je sais, comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Ils ont applaudi d'une façon un peu moqueuse et très gentille. C'est marrant ce qu'on a vu. Merci, monsieur Constantin. Allez, continuez votre machin, là, parce que...
En tout cas, il avait bien le feeling pour avoir pressenti ce garçon.
Oui. Donc voilà, je te dis, j'ai eu cette formation-là, les textes, tout de suite. Il y en avait un qui me faisait peur, c'était Léo Ferré, je te l'ai dit. Barbara, je ne l'ai pas vue. Mais des chanteuses dont on n'entend plus parler, comme Colette de Réal.
Ah si,
Colette Renard.
Oui, Colette de Réal, Colette Renard.
Et toutes les premières parties, parce qu'à l'époque, il y avait la vedette anglaise.
C'est vrai.
Les numéros de cirque, d'acrobatie, machin tout. Mm-hmm. La vedette américaine, qui en chantait 5-6.
Les enveloppes de la roue tourne.
Voilà. Entracte, la roue tourne et la vedette.
C'est vrai. Et en termes de vedette, celle qu'on va entendre maintenant, c'est quand même un summum. Mademoiselle Edith Piaf, l'hymne à l'amour.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'aborde si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime?
toujours en compagnie de mon ami Gérard Darmon. C'était Mademoiselle Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Il n'y en a qu'un hymne à l'amour comme ça en France, et c'est nous qui l'avons.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien est sur Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Mon cher Gérard Darmon, ton deuxième choix,
oui.
Georges Brassens, encore lui, toujours lui, mais on s'en lasse pas,
oui.
Les quatre bacheliers. On aurait pu en faire partie, toi et moi.
Oui, on aurait pu en faire partie.
De ces oiseaux-là.
Et j'aurais aimé avoir le dernier papa.
Ah donc oui, voilà. Un papa comme ça, c'était quelque
Alors,
chose.
Choisir une chanson de Brassens, pour moi qui suis vraiment un fan, c'est très compliqué. Quoi. Mais j'ai voulu faire une chanson qu'on ne connaît pas spécialement. Enfin, je voulais sortir de l'orage, le gorille,
copains d'abord.
Les copains d'abord et
ouais.
Tout ça. Ceux qui aiment Brassens avec les copains d'abord, c'est ceux qui aiment Sinatra avec My Way. C'est-à-dire que c'est pas vraiment
Stranger in the Night.
C'est plus juste parce que My Way, c'est encore autre chose.
C'est
intouchable, ouais. Alors bon, pourquoi les quatre bacheliers? Qu'est-ce que ça véhicule? C'est cette histoire de ces quatre jeunes hommes qui, pour plaire aux jeunes filles, vont se faire un peu voleurs et vont aller voler des fleurs pour leur offrir. Et les sycophantes, comme dit Brassens, les gens du village n'aiment pas ça. Donc ils sont dénoncés, ils sont arrêtés. Et puis les pères des quatre arrivent et chacun est outré. Le premier est outré, le deuxième le renie, le troisième dit deuxième fils maudit. Et le quatrième arrive et il ouvre sa blague à tabac, il lui demande s'il va bien. Et il lui dit que tout ça n'est pas trop grave, il lui lance un message d'amour, et Brassens se termine en disant que si ceux qui ne comprennent pas ça, c'est que pour eux, l'évangile, c'est de l'hébreu. Voilà.
C'est la chanson du pardon. C'est important pour toi, cette notion?
Ah oui, c'est très important. Il faut pas oublier, mais on peut pardonner. C'est très, très dur. Très, très dur. Mais ça existe. Surtout pour des broutilles, des vétilles comme ça. C'est rien du tout.
Oui, après, et puis, je crois que dans l'œuvre de Brassens, il était mystique sans le savoir, je pense. Lui qui bouffait du curé à tous les repas.
Oui, bien sûr.
Et la rédemption, je pense que c'est important chez lui parce qu'il est toujours du côté des blessés de la vie.
Absolument.
Hein, t'as remarqué?
Bien sûr.
Je me souviens, par exemple, de la complainte des filles de joie, où c'est les prostituées dont tout le monde se moque. Et à un moment, il a cette phrase terrible, il dit « Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain de fût amère. » Et là, ça nous ramène.
Ça calme, bien sûr.
Ça calme,
sûr, oui,
tu
absolument.
Vois.
C'est bon. Bon, grand poète, grand écrivain, anarchiste, et en même temps anarchiste qui, et c'est pour ça que je l'aime aussi, il dit « On peut être anarchiste et vouloir et savoir traverser dans les clous. » Et ça, c'est très bien, parce que ça prouve justement sa liberté. Il n'est pas anarchiste systématique, le refus de tout, le rejet de tout, l'opposition de tout, sous prétexte que on atteindrait à sa liberté. Ça nous conduit à ce qu'on entend en ce moment. Avec
c'est vrai.
Bien sûr. Et lui, il a ça en lui. Il a cette espèce de jardin secret, de choses, de force, de liberté, de poète et d'artiste et d'homme inspiré. Et en même temps, quand il faut traverser au clou, ben il traverse au clou. C'est pas si grave que ça.
J'ai remarqué parce que et toi forcément aussi, tu le sais, il a quand même une petite tendresse pour les monts en l'air. Tu trouves
oui,
pas?
Oui, il a écrit une chanson d'ailleurs.
Tu sais, des stances à un cambrioleur. C'est
bien
à
sûr.
Ça que je pense.
Mais il lui dit quand même, ne reviens pas parce que ça gâcherait le charme.
Oui.
Hein, tu l'as fait une fois, c'est bien, je te pardonne. Pas une deuxième fois.
Oui.
Une deuxième fois, voilà.
Il remercie presque de lui avoir laissé sa guitare parce oui. que c'est son instrument de
bien
travail.
Sûr.
Par contre, le voleur n'a pas pris une vieille croûte. Et là, j'adore l'humour de Brassens dans ces moments-là, quand il lui dit « Quel bon critique d'art, mon salaud,
donc
tu ferais. »
Tu ferais, bien sûr.
C'est...
Mais oui.
C'est
oui,
génial.
Mais...
Le mec qui se fait
oui,
dévaliser.
Mais c'est la même tendresse.
C'est vrai.
Et la même tolérance que les quatre bacheliers avec le père à la fin. Quoi. C'est... Voilà. Bon.
Ce sont des notions en toi, ça. La tendresse et la tolérance. Parce que tu n'as pas... Tu comprends, c'est une chanson très émouvante.
Oui.
En fait... C'est un énorme sentimental, Gérard.
Probablement, et c'est que je suis toujours sensible à ceux qui arrivent à le déceler. Et c'est une chose curieuse, tu vois, dans mon métier, le métier que je fais maintenant, que je pratique, les gens commencent de plus, les gens, je parle de ce métier, commencent à le sentir de plus en plus. Je parle pas du public qui lui a dû le pressentir déjà depuis longtemps.
C'est sûr. Mais le public n'aime jamais par hasard.
Voilà. Donc
faut bien se dire ça.
Voilà. Pourtant, je déteste tout ce qui est sentimentalisme,
larmoyant,
le pathos, etc. Ça me fait fuir. Mais non, mais là, parce que ce sont des grands actes. Tu sais, ce sont des grands actes d'humain, tu vois, c'est du cœur, c'est de la tendresse, enfin, on peut appeler ça comme on veut, l'intelligence aussi, la tolérance, il y a quelque chose qui est très touchant. Et puis, la pudeur, beaucoup de pudeur dans la façon de le dire, et voilà.
Comme toi qui as pu, je pense, assez longtemps te mettre derrière des masques, derrière...
Oui, bien sûr.
Puis c'est pas innocent, et heureusement, et tant mieux, un acteur, c'est fait pour nous embarquer, oui. nous faire jouer des personnages. Regarde, c'est une émission en hommage à Jean-Paul.
Oui.
Jean-Paul, combien de fois il nous a embarqué dans des trucs qui n'étaient pas évidemment très loin de lui.
Mais il disait, moi je porte la joie en bandoulière. J'adore cette expression.
Il avait raison.
La joie en bandoulière. J'ai relu là un peu le bouquin qu'il a fait sur une 1000 vies valent mieux qu'une vie. Qu'une seule vie, et c'est magnifique, cette espèce d'insouciance et en même temps de sérieux, ce mélange. Et quand tu parlais un peu avec lui, il était très sensible à des auteurs et des réalisateurs pointus, comme on dit, tu vois. Mmh. Il aimait Bergman, il aimait Fellini, il aimait tous ces gens-là, tu vois. Ça n'empêchait pas de faire Docteur Popol ou Le Professionnel ou des choses comme ça. Mais pourquoi pas, moi j'aime bien ces contrastes-là qui peuvent le plus, peuvent le moins, et on n'est pas une pièce. C'est bien d'avoir cette espèce de métissage, on en revient toujours à ça.
Et on va retrouver notre ami Brassens, parce que de Brassens à Belmondo, il n'y a qu'un petit pont à traverser, et c'est pas le plus difficile.
Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne, nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays s'envergognent. Aux gendarmes nous ont trahis. Et l'on vit quatre bacheliers s'envergognent. Qu'on emmène les mains liées. On fit venir à la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons. Les trois premiers pères, les trois sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid. Comme un seul, ils ont déclaré sans vergogne qu'on les avait déshonorés. Comme un seul, on dit c'est fini, sans vergogne, fils indigne, je te renie. Le quatrième des parents sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur sans vergogne. On s'attendait à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non sans vergogne. Bourgogne que l'on avait sali son nom, sali son nom. Dans le silence on l'entendit sans vergogne qui lui disait bonjour petit, bonjour petit. On le vit, on le croirait pas, sans vergogne lui tendre sa blague à tabac, blague à tabac. Je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, d'agir d'une telle façon, telle façon. Mais je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la corde de pendu, de pendu. A de la chance quand il a, sans vergogne, un père de ce tonneau-là, ce tonneau-là. Et si les chrétiens du pays, sans vergogne, jugent que cet homme a failli, homme a failli, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu.
Magnifique tonton Georges, les quatre... Oui, Bachelier.
D'autant qu'on ne doit pas l'entendre souvent. Là,
non, à non, bon, c'est pas la plus rock'n'roll de,
non, mais non, mais c'est pas...
de Jojo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas en la majeure, celle-là,
non,
mais moi je l'adore. Non, et oui. Puis, dans les fiches que me prépare quelquefois Maryse Jacquet, mon assistante, elle, j'avais oublié qu'il a fait 15 jours de prison avec sursis.
Ah oui.
Ouais, à 7. Pour avoir commis quelques larcins comme ça avec ses potes.
D'accord.
Ouais.
Donc,
c'est anecdotique. Donc,
c'est du vécu.
C'est pas mal après quand tu t'en sors dans la vie à travers la chanson. Parce que
oui, je voulais sortir de la supplique.
Est-ce qu'on n'aurait pas été, nous, des petits voleurs aussi un jour? Si on n'avait pas eu cette chance dans la vie de.
Ah, mais moi j'ai la réponse.
De faire ce qu'on.
C'est, oui, oui.
Voilà.
Ah ben oui, oui.
Tu comprends?
Oui.
On se retrouve dans un instant avec Gérard Darmon dans Dis-moi ce que tu chantes.
Dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien est sur Europe 1.
On est toujours avec Gérard Darmon dans « Dis-moi ce que tu chantes ». Alors
oui.
Là, la... ah, la chanson qui vient quand tu m'as choisi ça.
Coudon.
J'ai trop rigolé. Serge Reggiani, il suffirait de presque rien.
Ouais, alors là, c'est... Ouais.
Hein? Vaste sujet, mon petit camarade. Mais toi,
très,
je sais que dans ta vie, ça t'est jamais arrivé, ça.
C'est comme moi. Ça m'est arrivé, c'est aussi, ça me laisse.
Me penses-tu?
Non, mais bien sûr que oui, tu penses bien. Non, mais de vivre avec quelqu'un de
beaucoup
de,
plus jeune.
De plus jeune. Mais je me rends compte que les choix, en tout cas les trois premiers, là, c'est épais, hein, c'est
lourd. Ah oui, c'est épais.
Mais
ah, mais celle-là, elle est belle aussi. C'est écrit par, par Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois.
Voilà, alors c'est
après 68.
Voilà, ces deux-là, tu vois, du mec qui prend son stylo et tu sais ce que ça veut dire.
Ouais,
quoi,
ouais,
et
c'est
qui
beau.
Écrit,
hein.
Il suffirait de presque rien. Peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Point. Il repose le stylo. Il peut aller se coucher, le mec. Hein,
je
peut...
pense. Et nous, pour l'avoir pratiqué dans la vie courante, autant toi que moi, moi peut-être encore pire que toi, je crois.
Peut-être.
La différence d'âge, enfin bref,
oui.
On n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est merveilleux quand il dit Est-ce que j'aurais osé dire ça ? Fillette, allons, regarde-moi, faut du courage. Et vois les rides qui nous séparent, à quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit ? Mmh. Toi-même ferais semblant d'y croire. C'est très très lucide sur cette histoire de...
C'est pour ça qu'elle est touchante.
De l'homme qui vieillit et qui est amoureux d'une jeune femme. Tu sais qu'autrefois, souvent... moi, je me souviens, j'étais gosse, j'avais des... Comment ? Pas des tantes Jeanne, comme chantait Bécaud.
Oui.
Des tontons qui arrivaient avec la nièce de province.
Ah oui.
Personne n'était dupe.
Bien sûr.
Mais ils présentaient, c'est ma petite nièce.
Oui, bien sûr.
Tu vois ? Puis il y a des phrases, il y a des mots qui font mal, je veux dire. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire ? Ouais. Elle au printemps, lui en hiver. Ouais. On se sent un peu concerné, toi et moi, dans des coups comme ça, non ?
Oui, mais au-delà de ça, ça concerne pas mal de gens, parce que c'est aussi le temps qui passe. Enfin bon, tu vois, ça concerne beaucoup de gens. Bon, voilà, ça me touche à ce niveau-là. Cette chanson m'a toujours plu, de par sa simplicité et de ce qu'elle véhicule, c'est-à-dire, en définitive, un cœur sensible de la...
Non, mais c'était, de toute façon, c'était un grand classique hein, de Reggiani. Il a mis du temps, il paraît, à vouloir la chanter sur scène.
Ah oui.
Mais une fois qu'elle a été lancée sur la scène et sur les radios, c'est un des plus gros succès de toute sa carrière.
Bah, ça ne m'étonne pas, parce que c'est un des plus beaux textes.
Et imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste.
Ouais,
ça te parle, ça. Ça a plus que tout autre.
Mais oui, non, mais voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, quoi. C'est...
Ah, tu t'es trahi, mon Darnon, tu t'es trahi là-dedans.
Non, je me suis pas trahi, je me suis révélé, c'est pas mal.
Voilà, ouais, voilà, tu t'es révélé.
C'est pas la même chose. Parce que trahir, ce serait tourner le dos, alors que révéler, c'est s'ouvrir,
ouais.
Tout simplement.
Tu te sens donc, comme ça, quelquefois ?
Ou, comme Reggiani dans la chanson.
Ouais, la
oui,
peur.
Oui, c'est à la porte, parce que j'ai beaucoup d'armes contre, j'ai des scuds qui peuvent de temps en temps... désintégrer toutes ces pensées-là, mais de toute façon on n'y peut rien parce que ça avance. Et comme disait notre ami Racine, pour réparer des ans l'irréparable outrage, c'est impossible, donc il faut vivre avec.
Alors on va retrouver notre ami Serge Reggiani qui raconte à sa façon un petit bout de la vie de Gérard Darmon. Il suffirait de presque
rien.
Et
de la mienne aussi.
Et de la mienne aussi.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de toi aurions-nous l'air, j'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime.
Serge Reggiani, il suffirait de presque rien. Oui. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain. Ah, il y a quand même des phrases qui font mal, mon Gérard, je te le dis.
Mais je sais, je le sais, c'est pour ça que j'ai choisi.
On se retrouve dans un instant avec Gérard Darmon dans Dis-moi ce que tu chantes.
Europe 1, Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien. Europe 1, Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
On est toujours avec Gérard Darmon dans Dis-moi ce que tu chantes. Et là, écoute bien, je te prends par la main.
Oui.
Et je te fais faire une petite balade en nostalgie.
Ah, je sais ce que
c'est. Et je vais te dire où. À Paris. Et je vais te dire plus précisément, rive gauche. C'est Alain Souchon oui. qui nous emmène.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, pleines du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie. Tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagreco, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise, elle s'est fait prendre, elle est prise, elle va mourir quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise. C'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit. Un état dans l'état d'esprit, traité par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi.
C'était Alain Souchon, Rive Gauche. Oh. Ah. On se disait, pendant qu'elle passait tous les deux la chanson, c'est quand même notre patron, lui, non? C'est
ah
notre
oui.
top, Alain
ah
Souchon.
Oui, franchement, moi, j'ai
hein, une pour les mecs de ma génération, de la tienne, ah oui, on n'a pas au-dessus.
Absolument. Je suis de.
C'est Monsieur Alain Souchon.
Absolument.
Tu vois? Et cette nostalgie tout en délicatesse, quoi, avec des pinceaux très fins.
Oui.
Tu vois? Des.
Oui.
Des Boris Vian, ça s'écrit à la trompette,
bien
mon
sûr.
Petit gars.
Ouais.
Tu vois, des formules comme ça, c'est...
Mais on dirait Jane et Serge sur le
ouais,
pont des
sur
arts,
le pont des arts. Ouais, non, mais...
Il y a toute une ville. Hein,
ouais, et puis en plus, il est réaliste, il dit des trucs vrais. Les boutiquiers ont viré les libraires,
bien
c'est
sûr,
les marchands de fringues qui
sûr,
s'installent
sûr, ouais.
Là où on allait.
Non, c'est une grande chanson.
Et toi, ton rapport à cette ville? T'es né à Paris?
Je suis né à Paris, né à la Salpêtrière.
Et t'as grandi dans quel quartier,
j'ai
sur quel
dans
pavé
le
tu as 14e, poussé
14e, à Montsouris, au parc Montsouris. Je suis un enfant du parc Montsouris.
Ah ouais, et moi c'est le contraire, moi je suis né dans le 14e, tu vois. Non mais nous, évidemment, entre poissons, forcément, on se suit.
Voilà, dans le même aquarium.
Tout au long de la Seine.
Oui, oui, bon. Voilà, après, j'ai bourlingué après dans Paris, voilà, en ce moment je suis dans le premier, mais bon, j'ai fait le 18, le 9, le 17, enfin bon, j'ai...
Et tu es toujours attaché à Paris?
Oui, je suis attaché à Paris, si je suis vraiment, vraiment franc, un peu moins en ce moment, je suis un peu en désamour parce que je trouve cette ville totalement, je sais que c'est un mot à la mode et ça fait pouffer, un peu anxiogène.
Ouais, c'est vrai.
Pas tellement pour tout ce qu'on rapporte, tu vois, que ce soit les vélos, les machins, les passages, les automobilistes qui gueulent et tout ça. Je suis plutôt pour, moi, ça. C'est paradoxalement important. Je fais tout, je fais du vélo, je fais du scooter, je fais de la voiture dans Paris. Donc, non, je sais pas, une espèce de... c'est un timing qui me convient moins, je sais plus. Je me sens un peu... pas oppressé, mais j'ai toujours un peu peur au coin d'une rue, je sais pas, les choses arrivent vite, c'est gratuit, c'est pour rien, c'est être au mauvais moment, au mauvais endroit. Bon, ça a toujours été ça, mais là je trouve que c'est...
C'est vrai qu'on peut avoir, cette appréhension.
Voilà, je trouve pas qu'on ait fait de gros progrès dans le civisme et dans la civilité. Nous les Parisiens, c'est pas ça, moi qui ai passé beaucoup de temps cette année... vers Nice et dans cette Provence que l'on adore, c'est un autre rythme, c'est un autre rapport, c'est bon, voilà. Je sais que quand je reviens à Paris ou quand je suis là, j'aime Paris parce que j'aime cette couleur un peu orange quand un coucher de soleil sur le Louvre.
Oui, et puis, bon, c'est Paris, ça peut pas disparaître
non,
d'un
non.
coup comme ça, puis ça permet... Ça permet à Alain de nous écrire des choses sublimes comme ça.
Des chefs-d'œuvre.
Elle va mourir quoi qu'on en dise et ma chanson la mélancolise. J'aime oui. bien quand on prend
oui,
un mot.
Oui, oui, mais comme ça.
Et qu'on veut le conjuguer.
Voilà.
Mais Delannoy avait fait ça dans « Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés » pour Nicoletta. Il avait dit déjà « On te lumiérise, on te chanselise ».
Oui, mais ça c'est bien. Ce que j'aime moins, moi, c'est « Amour, mitié » ou « tu vois, des espèces de choses comme ça.
Oui, quand on fracasse le mot.
On fracasse le mot.
Alors que là, on l'emmène.
Voilà.
C'est important pour toi, le mot? Ouais, l'écriture.
Ah, c'est essentiel. C'est essentiel, ça te permet de dire profondément exactement ce que tu penses. On a la chance d'avoir une langue extrêmement riche. Et ça te donne, quand tu la possèdes un tout petit peu, envie de parler, comme on dit, comme un charretier. Moi, je suis d'une grossièreté et j'aime ça à partir du moment où je peux m'exprimer aussi autrement. Voilà, j'aime bien la langue de Dormesson et j'aime bien aussi celle du mec que je rencontre tous les matins, qui est au bistrot, qui me raconte des choses en faisant quatre fautes de syntaxe dans la phrase, mais c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est la musique avec laquelle il me la raconte et l'envie. Et ça me plaît. C'est aussi un langage. Et puis j'aime bien aussi écouter les gens que tu écoutes un peu bouche bée, bouche un peu entrouverte et un peu statique comme ça en disant quelle intelligence, qu'est-ce que c'est bien, c'est simple, j'ai tout compris. Ça me paraît, c'est limpide, le mot est juste, et ça me fracasse.
Alors là, je vais t'en proposer un autre faiseur de mots. C'est ton cinquième choix.
Oui.
C'est Monsieur Charles Trenet. Oui. On l'écoute tout de suite. Et évidemment, ça s'appelle Fidèle.
Fidèle. Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous.
fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un Castillet tout neuf, un Canigou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Quand les ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, s'étaient donnés si jeunes sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger qu'un elfe au petit jour. Mais à présent, quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret? Quand on est seul, debout sur la passerelle, devant tel ou tel monde qui disparaît, quand on regarde tous les bateaux qui sombrent en partant les choses qu'on espérait, quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres ombres à jamais.
Un chef-d'œuvre de Charles Trenet. Un chef-d'œuvre. On se disait ça. On
veut oui, fidèle.
Un de plus, tu te rends compte.
Voilà.
Et quand je dis un de plus, c'est qu'il est sur un album. Cette chanson figure sur un album de 71.
Oui.
Où il y a dessus, il y avait des arbres.
Oui.
Il y a l'oiseau de vacances.
Qui est monstrueux.
Enfin, c'est des chansons. Ah, oui, mais c'est des. Ça, oui. Parce qu'on cite souvent la mer ou que reste-t-il de nos amours, ah, oui, douce France. Mais oui. Fidèle, fidèle, là. C'est trop beau, c'est, il y a des images poétiques, on dirait une fresque, on dirait qu'il a pris le tableau et qu'il s'est mis à peindre comme ça tout doucement.
D'accord. Tu te rends compte que c'est compliqué de choisir cinq titres?
Ah, quand j'ai eu cette idée de cette émission, il y a des jours, je me dis, mais qu'est-ce que je choisirais, moi, des cinq?
Ben oui, tu vois.
Un jour, je vais me la faire en.
Tu vas te la faire. Moi, je viendrai te
Tu veux, tu veux me le faire? Tu me fais l'interview et moi, je fais l'invité.
Bien sûr, si tu veux.
Voilà. C'est ça qu'on va vous faire un jour. J'adore.
Mais voilà. Donc, c'est très compliqué. Et alors, bon, je voudrais aussi préciser, mais je n'ai pas besoin d'ailleurs de le faire, mais j'ai envie de le faire, c'est que j'écoute de la musique tout le temps, toutes sortes de musique, toutes sortes de musique. Et moi, j'ai un fils musicien, donc j'écoute beaucoup, paradoxalement, et c'est Jamel et Bakri qui m'y avaient initié, beaucoup de hip-hop américain.
Ouais.
Beaucoup de vinyle, comme ça. J'écoute moins. Je dois dire que la jeune génération française, je la connais peu. Je connais un peu Calogero, je connais un peu des gens comme ça. J'écoute ce que j'entends, mais voilà. J'aime bien Carla Bruni. J'aime bien son,
ouais,
son album.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis sensible.
J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le dernier album de Julien Clerc aussi, qui est tout à fait. Sans phare et sans, c'est la quintessence même de, voilà, du chanteur.
Ouais, Julien, de toute façon, il fait partie de,
voilà.
Il est dans nos veines, celui-là,
voilà.
Aussi, tu vois.
Bon, j'écoute vraiment tout. J'écoute du jazz, j'écoute beaucoup de classiques, j'écoute. Ça fait partie intégrante de ma vie.
Et la fidélité, c'est important. Par exemple, on est fidèle en amour, en amitié. Enfin, on est fidèle comme on peut, autant qu'on peut.
C'est pas simple.
Ouais. Mais est-ce que tu restes fidèle, tu penses, au jeune homme que tu étais quand tu avais 17 ans?
Oui.
C'est important.
Bien sûr. Et le jeu, c'est d'essayer de rester fidèle aux idéaux de jeunesse. Quand tu démarres dans cet apostolat qui est d'être acteur ou chanteur ou enfin ce métier un peu qui peut être considéré comme ça de vue de loin comme incroyable, qui n'est pas d'ailleurs un métier, qui est vraiment un apostolat. Et il faut rester fidèle. Enfin, il faut essayer de rester fidèle à ses idéaux sur l'honnêteté.
Ouais, tu rejoins Trenet quand il se fait philosophe, en fait, parce que
quand on sait bien autrement. Que l'on n'est plus qu'une ombre.
Ah ben ça, elle est mortelle, celle-là.
Fidèle à d'autres ombres, à jamais, quoi. C'est-à-dire que tout, ce n'est rien. Ça te rend aquaboniste, hein.
Ouais.
Tu vois, tout à coup, tu fais, bon, ben c'est vrai, à quoi bon, qu'est-ce que c'est, toutes ces querelles qui ne signifient rien, puisqu'un jour, on en connaît l'issue et que, bon.
Ouais, puis là, il y a une vraie, comment dire,
bon dimanche à tous, hein.
Ouais, non.
Non, parce que j'ai l'impression qu'on a mis...
Non, parce que Trenet, c'est joyeux, mais c'est, oui. On peut dire aussi la vérité, on peut dire que il y a une nostalgie, il y a des phrases qui nous emportent,
il y a des phrases
qui nous font mal. Moi, je te disais tout à l'heure hors antenne, je pense à Alain Delon, quand on sait bien qu'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres ombres, à jamais.
Bien sûr, en ce moment, ça doit être terrible.
C'est terrible.
Je pense que ce qu'il souhaite,
et c'est merveilleux à la fois.
Il souhaitait partir tout de suite aussi.
C'est possible aussi
avec Belmondo.
Voilà. Quelque chose je pense.
D'encore spectaculaire, je sais pas. Il y a. Mais oui, je me mets.
Mais c'est beau qu'il y ait encore, qu'on soit sensible à des chansons comme ça, quoi.
Oui,
fidèles.
Oui, oui. Mais tu vois, moi, j'y suis sensible et ça fait partie des choses que j'écoute, qui sont.
Parce que tu vois, regarde, Charles, il se pose la question. Pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret?
Bien sûr.
C'est vrai, on pourrait être opportuniste et prendre le vent.
Il y en a, et parfois
prendre le vent qui passe tout le temps.
Oui, on l'a été parfois dans un accès de manque d'humilité totale, et on revient vite au bercail quand on se rend compte qu'on a pris un itinéraire bis, une fausse route comme ça qui a été. On revient à certaines valeurs. Moi, je sais que ça me l'a fait. Il faut vraiment être un grand auteur et pour en 12-15 lignes comme ça, 20 lignes d'une chanson, dire à peu près tout et faire un panégyrique de tu vois la boîte d'aquarelle, tu la vois la
boîte d'aquarelle. Ouais, les petits détails, oui, le vieux toutou, la boîte d'aquarelle,
voilà,
le porte la nouvelle au mois d'août.
On a tous une boîte d'aquarelle, on sait pas ce que c'est un truc que t'as dans la poche depuis 25 ans, c'est pas pourquoi, un caillou, un truc avec des initiales, enfin je sais pas, tu vois, ça peut te... Bon... Il y a cette espèce de et pourtant je suis pas de ceux qui encouragent la nostalgie. J'aime bien
j'aime bien, tu vois. Je sais pas, parce que c'est la nostalgie que j'aime, le souvenir en tout cas.
Oui, le souvenir.
J'aime.
Il s'agit pas d'oublier, mais c'est bien aussi d'être dans le présent. Donc, et je crois que ce qu'on vit dans le présent est intégralement nourri par tout ce qui a fait notre passé, quoi. C'est
en tout cas, je dois te dire, bon, c'est vrai que je sais que tu es un homme fidèle dans la vie, en amitié surtout et toujours, et que ça a été un bonheur de te recevoir.
Merci.
À tel point que c'est pas une mauvaise idée, l'idée que ce soit toi qui me reçoive un jour derrière le micro.
Écoute,
avec mes 5 chansons, c'est comment je vais faire pour trouver.
Tu vas voir, c'est très compliqué.
Je me rends compte.
C'est très, très, très compliqué.
Et puis, très heureux.
Brel, j'ai pas mis Brel.
Ouais, t'as pas mis Brel. T'as pas mis.
J'ai pas mis Aznavour.
T'as pas mis Ferré non plus.
J'ai pas mis Ferré, mais alors Ferré me faisait peur quand j'avais l'âge d'aller de
Bobino. Tu m'as dit, mais La mémoire et la mer, quand même, c'est un chef-d'œuvre.
Oui, non, mais bien sûr que oui, La vie d'artiste, plein de choses, La solitude, bon, et puis avec le temps, qu'est-ce que tu veux dire? Avec le temps, c'est compliqué de faire mieux. J'allais pas en plus de tout ça mettre Avec le temps, parce que sinon on se tirait une Francfort dans la... tu vois
Non, bon, j'espère quand même, amis auditeurs, que vous avez passé un bon dimanche avec nous deux, les deux pleureuses, Darmon Barbelivien. Non, on n'a pas pleuré.
Non, on n'a pas pleuré, c'est des chansons.
Et puis, on est heureux de dédier cette émission à notre ami Jean-Paul.
Voilà.
Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre invité, surprise celui-là. Et d'ici là, bah oui, restons fidèles à nous-mêmes.
Et moi je vous dis au revoir.
Et moi je t'embrasse mon Gérard et je vous embrasse à tous.
Moi aussi.
Et tout de suite on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël.